Le constitutionnalisme moderne date bien entendu du XVIIIe siècle et les deux grands projets, celui de la France et des États-Unis, ont donné une nouvelle forme de gouvernement, de droits fondamentaux, etc. Alors, ça ne s'est jamais passé de façon sans histoire, tout à fait au contraire, il y a eu des crises dès le début. En France, très peu après les premiers efforts de constitution, vous avez eu un empire, le retour de la monarchie, et plusieurs fois des gouvernements non démocratiques, donc il y a eu des crises l'une après l'autre. Aux États-Unis, il y a une crise dès le début, puisque la constitution américaine, malgré ses déclarations magnifiques, est une constitution qui a toléré l'esclavage. Il a fallu une guerre civique pour se débarrasser de la partie de la constitution américaine qui est certainement pas en mesure, selon les notions modernes de constitutionnalisme. Donc, l'idée de crise, surtout en sort du XXe siècle, où le constitutionnalisme a été a eu plusieurs crises. Il a été contré par le nazisme et le communisme, stalinisme et d'autres formes non constitutionnelles de gouvernement. Donc, c'est vrai, comme tu le dis, Dominique, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très différente. Je dirais même qu'il y a une, dans un certain sens, il y a une universalisation du constitutionnalisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, commençant par l'Allemagne et le Japon, sortant de la guerre et ayant obtenu leur constitution. Ensuite, il y a eu l'Espagne, la Grèce, le Portugal dans les années 70. Tous les pays ex-communistes d'Europe centrale et de l'Europe de l'Est dans les années 90, l'Afrique du Sud, etc., etc., beaucoup de pays d'Amérique latine après la dictature, sont entrés dans, plein dans le constitutionnalisme. Et de plus, on a commencé à voir que le constitutionnalisme ne se limitait pas à l'État-nation, mais qu'il atteignait de nouvelles frontières. Alors, ce qui est de plus évident, c'est naturellement l'Union européenne. Alors, si on se place à la fin de 2004, tous les membres de l'Union européenne de l'époque avaient accepté le traité constitution, donc une constitution transnationale, et il y a même ceux qui prétendent que la charte des Nations Unies et l'élaboration d'une constitution globale, elle n'est pas complète, il y a pas mal de problèmes, mais on peut voir l'esquisse d'un projet de constitutionnalisme au niveau global, au niveau transnational, Union européenne, et pourquoi pas d'autres régions qui pourraient suivre. Du point de vue des droits fondamentaux, on a toutes les conventions de droits fondamentaux, comme il y a la Cour de Strasbourg, la Convention européenne, de nouveau, c'est la plus visible, mais il y a une convention aux Amériques. Nous, les États-Unis, on ne l'observe pas tellement, mais elle a quand même sa propre cour et sa propre jurisprudence. Il y a des conventions des droits de l'homme un peu partout. Tout semble aller dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a des crises? Oui, la constitution de l'Europe, c'est vous les Français et avec vos voisins néerlandais qui l'ont tuée en 2005. Est-ce qu'elle a été rétablie? Est-ce que le traité de Lisbonne est comme une constitution? Ça, on peut débattre là-dessus. Mais je dirais qu'à partir de 2004, nous avons certains problèmes. Alors, je vais... pour l'essentiel de ma thèse... C'est pas que le constitutionnalisme et les constitutions ont disparu, c'est juste le contraire, c'est très à la mode d'avoir une constitution, tout le monde a des constitutions, l'Égypte vient de se donner une constitution, la Hongrie vient de se donner une nouvelle constitution, d'ailleurs, du point de vue du constituant hongrois, c'est la constitution qui donne finalement la démocratie constitutionnelle à la Hongrie, puisque ce qui s'est passé après la révolution de 1990 en Hongrie, c'est que la constitution de 1949, qui est une constitution communiste, a été amendée. Elle a été amendée complètement, mais l'Hongrie ne s'est pas donné une nouvelle constitution. Il y a une seule disposition qui restait de la vieille constitution communiste, c'est que Budapest est la capitale de la Hongrie. Tout le reste a basculé par des amendements. L'économie socialiste est devenue une économie de libre marché, la propriété privée a été protégée, etc., etc. Alors, mon propos, ma thèse, c'est que cette crise, ou crise au pluriel, dans le sens que c'est, je parle d'une crise, je crois que cette crise, en fait, a un élément commun. Alors, ce sont des crises au pluriel dans le sens qu'elles affectent les constitutions des États-nations et les constitutions transnationales, s'il y en a. Mais ce qui est unique, et d'après moi, à ce qui rend cette crise différente aux autres crises, c'est que ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer, c'est que le discours du constitutionnalisme, la rhétorique du constitutionnalisme, les structures et formes du constitutionnalisme sont utilisées contre, l'esprit du constitutionnalisme. Alors, je vais essayer de démontrer cette thèse en parlant d'abord de deux constitutions de 2012, c'est celle de la Hongrie et celle de l'Égypte, du problème de ce que l'on peut appeler le problème constitutionnel de l'Europe, qui a été, aggravé par la crise de l'euro, mais aussi de ce que je vois comme une espèce de le constitutionnalisme qui se mine par l'intérieur dans des pays qui sont les grands bastions du constitutionnalisme moderne, donc les États-Unis, la France et l'Allemagne. Je donnerai des exemples. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que tout disparaît, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès dans certains sens, mais c'est très préoccupant que le discours et l'idéologie du constitutionnalisme est utilisé à des fins qui me semblent contraires à l'esprit du constitutionnalisme tel qu'il a apparu à Paris et à Philadelphie à la fin du XVIIIe siècle. Donc, pour illustrer ce que je veux dire, prenons la constitution de la Hongrie, car il me semble que c'est un exemple très frappant. Alors, avant cette nouvelle constitution qui a été élaborée en 2011 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, la Hongrie avait une constitution libérale. Elle avait transformé le système politique et la démocratie qu'elle a acquis à la fin de la période de domination soviétique dans une constitution libérale. Les droits étaient protégés, la presse était libre, il y avait séparation entre État et religion. Et qu'est-ce qui se passe en 2011 ? C'est que le parti en pouvoir, Fidesz, d'ailleurs il y a un aspect très ironique, Viktor Orban, qui est le premier ministre de la Hongrie, que d'ailleurs j'ai connu lorsqu'il était un étudiant, quand j'ai enseigné pour la première fois à Budapest en 1993, j'ai eu un café avec lui, qui était tout à fait libéral, les droits fondamentaux, le marché libre, enfin c'était tout à fait un exemple presque américain de constitutionnalisme à l'américain, a décidé, alors qu'il a une très grande majorité dans le Parlement, d'adopter une constitution nationaliste. Alors, il y a non seulement, parce que c'est un aspect à discuter, puisque en fait, les constitutions libérales, dans quelle mesure il y a un rapport entre l'Église et l'État, ça, c'est assez variable. La France étant un exemple d'un extrême, mais par exemple en Grèce, ou même en Grande-Bretagne, il y a une Église officielle. Donc le fait qu'il rattache, la nouvelle constitution se rattache au christianisme, si on voit ça d'un point de vue culturel, c'est peut-être pas ce qui est tellement dérangeant, mais ce qui est dérangeant, c'est le fait que c'est une constitution où l'aspect ethnique du pays remplace la constitution d'un peuple. Alors c'est intéressant que la nouvelle constitution hongroise n'est pas une constitution au nom du peuple de Hongrie, mais de la nation hongroise. Encore plus dérangeant pour ceux d'entre nous qui avons ces vieilles tendances, c'est que dès le début, la Constitution déclare qu'elle va protéger la nation hongroise, les Hongrois, en Hongrie et en dehors de la Hongrie. Ce qui a tout de suite été très mal pris par le Premier ministre de Slovaquie, puisqu'il y a des gens d'origine ethnique hongroise qui parlent le hongrois en Slovaquie, en Serbie, en Roumanie, etc. etc. Deuxièmement, il faut aussi mettre ça dans un contexte. Il y a un affaiblissement des institutions qui sont traditionnellement, qui garantissent les droits fondamentaux, surtout de la Cour constitutionnelle, et de ses pouvoirs et du personnel. Et il y a ce qui était extrêmement critiqué, d'ailleurs la commission de Venise a fait un rapport très critique, plusieurs parlementaires européens et même ministres d'Allemagne par exemple ont fait de grandes critiques, mais il faut mettre ça dans un contexte. À côté du fait que Fidesz, le parti des nationalistes de droite, a une grande majorité, il y a un parti tout à fait extrémiste qui s'appelle Jobbik, qui a reçu 17% des places au Parlement de la Hongrie. Alors, Jobbik, c'est un parti extrêmement anti-romain et antisémite. Il a même déjà conduit des tueries de population romane dans certains villages en Hongrie. Et naturellement, Orban a dit « moi, j'ai rien à faire avec ça ». Il a nié, mais il y a quand même beaucoup de politiques qui sont communes. Alors, c'est la revendication d'un nationalisme, d'une idéologie ethnique qui nous fait rappeler les années 30. D'ailleurs, je crois que c'était le Frankfurter Allgemeine a dit que la rhétorique de Jobbik avait une rhétorique antisémite qui était pire de ce qu'on avait entendu dans les années 30 en Allemagne. Alors, lié à tout ça, il y a les Hongrois. Et donc, pas de protection aux minorités, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de protection des minorités dans la nouvelle constitution. Mais ce qui, du point de vue constitutionnel, est même encore plus grave, peut-être, c'est le fait d'avoir, Fidesz s'est débrouillé pour avoir des institutions administratives, tout ça avec des lois spéciales, où ils placent leurs alliés pour beaucoup d'années, c'est-à-dire parfois 20-30 ans, ce qui garantit, par exemple, il y a eu des critiques sur les contrôles sur la presse, ce qui garantit qu'ils auront le pouvoir même s'ils perdent les élections à venir. Donc ça, c'est très préoccupant, mais c'est tout au nom d'une constitution, c'est fait au nom d'une constitution, et c'est l'esprit constitutionnel, et c'est la première constitution non communiste de la Hongrie. Passons à l'Égypte. L'Égypte est naturellement, tu as tout à fait raison, il y a le printemps arabe, les démonstrations en Égypte, il y a vraiment quelque chose de tout à fait inspirant à ce qui s'est passé en Égypte. Alors, la constitution de l'Égypte, et en Hongrie et en Égypte, une des critiques, c'est que l'élaboration de la constitution s'est faite sans l'intervention de la majorité des citoyens. Alors, les gens en dehors Fidesz n'ont pas participé à l'élaboration de la constitution hongroise. Il y a eu beaucoup de critiques que la constitution égyptienne, l'opposition laïque n'a pas vraiment participé, n'a pas accepté le projet. Alors, la constitution d'Égypte n'est pas comme la constitution hongroise dans le sens suivant. La Hongrie, d'après moi, a fait une rétrogression importante avec sa nouvelle constitution, car elle avait une constitution qui fonctionnait, des institutions qui fonctionnaient, une cour constitutionnelle très hardie, peut-être comparable seulement à la cour allemande. Alors qu'en Égypte, il y a dans la nouvelle constitution des éléments qui sont très bienvenus. Par exemple, après une présidence autoritaire de 30 ans de Moubarak, la nouvelle constitution égyptienne dit le président aura un mandat de 4 ans qui peut être renouvelable une seule fois, donc pas de président pour plus de 8 ans. Il y a des droits, par exemple, si on lit les droits au sujet les gens qui sont arrêtés, les droits de la défense, les droits dans le système pénal sont comparables aux droits qui existent aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, la nouvelle constitution égyptienne démontre qu'il y a pas mal de progrès. Mais par contre, il y a aussi, et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je trouve cela particulièrement préoccupant, c'est l'idée des libertés constitutionnelles qui sont acceptées dans tous les pays qui existent dans la Constitution européenne, comme par exemple la liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression, mais l'article 44 dit « mais il est interdit d'insulter les prophètes ». Alors que veut dire la liberté d'expression si on ne peut pas insulter les prophètes ? dans le contexte d'une présidence qui vient d'un parti islamiste où l'imposition de la religion semble faire partie du projet. Donc il y a aussi une disposition qui dit qu'il y a l'égalité entre les hommes et la femme, sujet à la charia. Or, peut-être c'est un préjugé occidental, la charia, d'après ce que je ne connais pas beaucoup, mais d'après ce que j'ai entendu au sujet des femmes, n'est pas acceptable du point de vue de toute notion d'égalité entre les hommes et les femmes, du moins de toute notion occidentale. Il y a ensuite, dans l'article 219, que la charia qui est inclue dans la Constitution. Alors, c'est intéressant parce que l'article 2 de la Constitution égyptienne est le même que l'article 2 de l'ancienne Constitution égyptienne qui intègre la charia dans la loi nationale. Or, ce qui s'est passé avant, c'est que les juges de la Cour suprême d'Égypte interprètent la charia de façon très libérale. Il y a plusieurs arrêts de la Cour où quelqu'un venait et disait « la charia me fait faire X, Y, Z » et la Cour disait « nous interprétons la charia de cette façon-là, en fait, c'est pour limiter l'effet de la charia ». Alors maintenant, c'est exactement le contraire. Et l'article 219 de la nouvelle Constitution dit que la charia islamique sera interprétée selon les doctrines sunnites. Ce qui veut dire que… Alors, il y a un renversement. Langage constitutionnel, rapport entre charia et loi parlementaire, mais dans l'ancienne constitution, ça veut dire que les juges ont un certain pouvoir pour limiter ce qui leur semble le moins démocratique et le moins libéral dans la charia. D'ailleurs, en note de bas de page, je pourrais dire que c'est la même chose que fait la Cour suprême d'Israël, qui lit la loi rabbinique, mais l'interprète de façon à la limiter. Alors, l'Égypte et Israël, de ce point de vue-là, avaient une procédure assez équivalente. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, il faut que la loi laïque soit soumise à la charia selon les doctrines sunnites. Donc, c'est justement l'utilisation d'une présentation, d'une rhétorique, d'une architecture constitutionnelle pour, d'après nos notions du moins anciennes venant du XVIIIe siècle, pour faire une subversion de la Constitution. Passons à l'Europe. Alors, il y a un grand débat, bien entendu, en Europe. Il y a ceux qui prétendent que la Constitution, le traité constitutionnel de 2004 n'a pas réussi, mais qu'en fait le traité de Lisbonne, c'est la même chose sans le mot Constitution. D'ailleurs, je crois que Giscard d'Estaing avait dit en 2005-2006, lorsque le texte du traité de Lisbonne avait été élaboré, en fait c'est la Constitution, mais il faut faire très attention, les gens ont peur du mot Constitution, donc ça devient un traité tout court, mais c'est la même chose. Que ce le soit ou non, il y a une vraie crise, la crise de l'euro. On l'a vu, du moins vu des États-Unis, un pays se monter contre l'autre. Et il y a aussi il y avait ce qu'on peut dire un déficit constitutionnel pour s'adresser à la crise qui, depuis, est en voie de solution, du moins au niveau formel. Et c'est que la Banque centrale européenne n'avait que des pouvoirs sur la monnaie, sans avoir des pouvoirs sur la politique fiscale ou sur la politique économique. Alors qu'aux États-Unis, le Federal Reserve, qui est l'équivalent, qui ne vient pas de la Constitution, mais d'une loi du Congrès, permet de coordonner la politique monétaire, fiscale et économique. Et par exemple, l'une des choses que le Federal Reserve qui est dans les pouvoirs du Federal Reserve, c'est d'essayer d'améliorer l'emploi, les taux d'emploi. Alors, il y a eu, bien entendu, des traités, surtout le traité sur la stabilisation, sur la stabilité, le mécanisme de stabilité européen, mais le problème est le suivant, et c'est un problème qui se pose au constitutionnalisme dans le sens qu'on a vu une grande tension entre les pays. Il y a de vrais discours où le nationalisme, c'est du moins le nationalisme économique, a été réaffirmé. On a entendu par exemple beaucoup en Allemagne, pourquoi sauver la Grèce Pourquoi ne pas essayer de recombiner l'Union européenne ou d'exclure ceux qui ont des problèmes économiques, quoique la zone euro devrait les unir. Donc il y a ce problème politique qui a bien entendu des répercussions constitutionnelles, mais aussi il y a, là les États-Unis et l'Europe se rejoignent, il y a le problème de la politique au sujet de l'argent, c'est-à-dire une politique qui demande l'austérité, qui demande de réduire la dette et qui, d'après moi, menace l'un des grands piliers du constitutionnalisme. Alors, le constitutionnalisme a deux piliers essentiels. Je simplifie, mais du point de vue de cette crise, je crois que c'est important de le voir de cette façon. D'une part, il y a les droits fondamentaux. Et d'autre part, il y a il y a un parallèle entre le constitutionnalisme et ce qu'on appelle la justice distributive. Question de justice distributive ne se pose que s'il y a une situation où il y a une situation de manque relativement, pas trop grand, c'est-à-dire une fois qu'il y a par exemple des excès de pauvreté dans une société qui n'a pas suffisamment de richesse pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il veut, mais elle a une richesse suffisante pour qu'il y ait des politiques de redistribution qui, selon différents critères de justice, permettent à la société de devenir une société juste. Il en est de même avec le constitutionnalisme, il faut qu'il y ait un certain équilibre pour que le citoyen puisse participer, pour qu'il y ait après tout une vie politique, sociale et économique où il n'y ait pas des extrêmes de richesse et de pauvreté. Or, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, en Europe, et ça c'est une fonction, je crois, directe de la mondialisation de l'économie, c'est qu'il y a de plus en plus d'écarts de richesse et il y a de plus en plus des politiques ne favorisent pas l'emploi, ne favorisent pas la réduction de différences de richesse, etc., qui ont des conséquences constitutionnelles importantes. Alors, je donnerai un exemple aux États-Unis. Donc, argent et constitution sont liés dans ce sens-là. Alors, est-ce que l'Europe va s'en sortir? Est-ce que les États-Unis vont s'en sortir? Est-ce que la mondialisation va les pousser à plus d'inégalités puisqu'il n'y a pas, justement, malgré ceux qui disent que la Charte des Nations Unies sont un début de constitution au niveau global, il n'y a pas vraiment de contrôle constitutionnel au niveau de la mondialisation de l'économie. Ce sont bien entendu des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre, mais certainement ceci accentue la crise. Alors, il y a d'autres aspects de la crise constitutionnelle européenne. Par exemple, je prends vos voisins, les Britanniques, et alors ils sont contre la charte de droits de l'Union européenne. Ils font des bruits contre la Cour de Strasbourg et la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ne veulent bien entendu pas se joindre à l'Europe au niveau de l'économie, donc seront-ils des membres associés de deuxième ordre? Donc il y a des signes préoccupants de ce côté-là aussi. Et ça aussi, c'est une crise, je crois, ça contribue à la crise qui existe en Europe. On se demande aux États-Unis, mais peut-être on est un peu naïf, est-ce que l'Europe va survivre, disons l'Union européenne en tant que telle, ou est-ce que finalement il y aura une fragmentation, les riches seront parmi eux, ils ont expulsé ou marginalisé les autres? Donc, ceci pose une question générale au constitutionnalisme transnational. Et pour le moment, on n'a pas d'autres exemples. Je finis par faire une petite excursion envers les pays où le constitutionnalisme, du moins en principe, va très bien. Alors, tu nous as parlé de la France, je ne vais pas prétendre parler de la France beaucoup, mais j'ai un seul exemple. Aux États-Unis, c'est passé après que j'ai donné le titre de ma conférence, donc c'est assez récent. Un professeur de droit connu aux États-Unis a écrit un article dans le New York Times, un éditorial dans le New York Times, où il a dit « il faut abolir la Constitution américaine ». Alors, c'est assez hardi, bien entendu, mais pourquoi faut-il abolir la Constitution américaine ? Parce qu'il dit qu'elle est la cause directe du fait que le gouvernement fédéral ne marche plus. Il est paralysé. Alors, on a le collège électoral qui a déjà nous a donné Bush contre Gore et beaucoup d'autres malheurs. Au lieu d'élire le président directement au suffrage universel, il y a cette vieille méthode où la majorité... Il y a plusieurs fois, ce n'est pas seulement Bush contre Gore, ça c'est simplement l'occasion la plus récente, où celui qui a la majorité des voix n'est pas élu président. Ensuite, il y a les mécanismes, parce que c'est une question de poids et de contrepoids, entre le Congrès et le président sont tels que maintenant ça ne fonctionne plus du tout. Alors, depuis plusieurs années, on est bloqué. Alors, il faut rejeter tout ça. C'est vrai, les droits fondamentaux, c'est très bien, mais structurellement, la Constitution américaine doit être rejetée. Mais je ne vais pas me concentrer là-dessus, je vais me concentrer sur les deux questions qui sont au centre de mon analyse, argent et droits fondamentaux. Alors, du point de vue de l'argent, j'ai déjà dit qu'il y a un parallèle entre la justice distributive et comment la Constitution s'occupe de la distribution de la richesse ou l'organisation de l'économie, etc. Et au point de vue des droits fondamentaux, il y a toujours une question d'équilibre entre l'individu et le groupe. Alors, les excès en Hongrie et en Égypte, on peut dire que ce sont des excès où le groupe... prend beaucoup trop de force contre les intérêts de l'individu. En Hongrie, c'est le nationalisme et l'ethnie. En Égypte, c'est apparemment une version de la religion musulmane. Aux États-Unis, en France et en Allemagne, il y a des exemples récents où il semble qu'il y a un individualisme excessif. Or, l'individualisme excessif est aussi dangereux que d'éliminer l'individu en faveur du groupe. Alors, il faut rappeler tout simplement pour point de départ que le grand génie du constitutionnalisme moderne, d'ailleurs qui s'est basé sur le rejet du féodalisme, c'est que dans le monde féodal, l'individu ne comptait pas. On faisait partie d'un groupe social, on avait sa place. Alors de point de vue légal et d'un point de vue institutionnel, on ne comptait pas en tant qu'individu. Ce qu'a fait la Révolution française et la Révolution américaine, c'est de donner sa place à l'individu. Or, ça ne veut pas dire qu'on élimine le groupe, mais ça veut dire qu'on on doit repenser la relation entre l'individu et le groupe. Alors, l'exemple français, je crois, est le plus frappant. C'est l'idée de Jean-Jacques Rousseau, qu'il y a l'individu privé, c'est-à-dire le bourgeois, et il y a le citoyen. Et donc, il faut que le citoyen puisse faire abstraction de plusieurs aspects du bourgeois qui est lié à des groupes, à une religion, etc., etc., pour constituer l'esprit civique. Donc il y a toujours cette tension entre l'esprit civique du citoyen et les intérêts privés de l'individu qui sont toujours reliés à des appartenances à des groupes divers. Bon, alors l'excès d'individualisme, je donne trois exemples. L'exemple américain, parce que ce sont des excès très différents. On verra que les excès sont très différents. Alors, l'excès américain, c'est le point de vue individualiste américain, ça retourne presque au monde de Hobbes, où tous sont contre tous. Alors, l'individu américain, c'est l'individu qui découvre l'esprit de l'Ouest et qui est très indépendant et qui ne dépend de personne, mais il se sent menacé. Il est menacé de tous les côtés. Alors, c'est très intéressant que le premier acte terroriste après la fin du communisme aux États-Unis, ce n'était pas fait par Al-Qaïda, mais c'était fait par un Américain de souche, du centre, du Midwest, etc., qui s'appelait Timothy McVeigh, et qui a tué des enfants, des femmes et des hommes un peu partout dans un immeuble fédéral dans la ville de Oklahoma, plein centre des États-Unis. Sa théorie était que le gouvernement fédéral des États-Unis, c'était comme le gouvernement communiste de l'Union soviétique. Et donc l'individu ne peut pas être subordonné à cette espèce d'horreur d'État fédéral. Et donc il y a un aspect de ça que l'individu américain est menacé de tous les côtés. Comment est-ce que ceci... Alors il y a une culture de violence, il y a, et ça étonne beaucoup les Européens, mais il y a la découverte du deuxième amendement. Le deuxième amendement qui dit en fait que les milices ne peuvent pas être dépourvues de leurs armes, et qui dans le contexte historique voulait dire que les États fédérés, qui sont passés d'une confédération à une fédération, voulaient garder certains pouvoirs pour que l'État fédéral ne les exploite pas trop, a été interprété dans une affaire, l'affaire Heller, il y a quelques années, par le juge Scalia de dire non, c'est un droit individuel. Chaque individu a un droit de porter des armes. Il a déclaré une loi de la ville de Washington inconstitutionnelle. Alors la ville de Washington interdisait les pistolets parce qu'il y a beaucoup trop de meurtres dans cette ville et on ne pouvait pas avoir un pistolet chez soi. Il a dit non, non, c'est inconstitutionnel. Alors maintenant les extrémistes demandent que tout genre d'armes, des armes automatiques où on peut tirer 50 ou 60 balles à la fois, soient protégées. Et donc, on a eu une série de tueries. Maintenant, je ne veux pas dire que les individus qui ont fait la tuerie sont peut-être des gens qui ont des problèmes mentaux. C'est-à-dire... Mais symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société américaine a une notion de l'individualisme où l'individualisme est menacé et où la violence devient un droit. Alors, il y a eu la tuerie dans un cinéma au Colorado. D'ailleurs, c'était un universitaire qui a tué 12 et blessé 58. Et c'était alors qu'on montrait un film très violent, dont une partie de l'histoire était d'avoir une bombe atomique lancée dans une ville. Enfin, donc c'était de la violence dans la violence, alors il a tué. Et bien entendu, les lobbies des armes à feu ont dit il ne faut pas limiter les armes à feu, alors il avait des mitraillettes automatiques, etc., etc. Mais tout le monde aurait dû être armé. C'est-à-dire que pour mieux se défendre, il faut armer tout le monde. En fait, les experts de police ont dit que si les gens avaient été armés, ils auraient commencé à tirer dans le noir et avec de la fumée, etc. Ça aurait été un massacre beaucoup pire. Deuxième exemple, quelqu'un qui avait des tendances néo-nazies, qui avait été dans l'armée américaine, est allé tuer des gens dans un temple sikh. Alors là aussi, la menace de l'extérieur, les non-blancs, les non-protestants, etc. Alors ça démontre qu'on ne veut pas les étrangers parmi nous. On est contre le pluralisme. Il y a eu ensuite cette tuerie d'enfants qui semble encore plus absurde il y a quelques mois. Mais, donc on peut dire qu'il y a un excès d'individualisme. Alors ceci est, bien entendu, c'est peut-être des fous, mais cette atmosphère est renforcée par des décisions de la Cour suprême, notamment sur les armes à feu dont j'ai déjà parlé, mais aussi sur leur discours de haine. Aux États-Unis, le discours de haine est protégé constitutionnellement, alors qu'en Europe, l'incitation à la haine raciale, religieuse ou ethnique est interdite et n'est pas constitutionnellement protégée. Aux États-Unis, c'est protégé. La seule chose qui est interdite, c'est l'incitation à la violence. On ne peut pas dire « allez tuer tous les X », mais on peut dire « il faut jeter les X de la société, ils sont intolérables, il ne faut pas, etc. etc. » Excepté à la française. Alors là, je suis sur un territoire très, très dangereux, mais je vais prendre un seul exemple, parce que alors que l'individualisme américain, c'est l'individu menacé qui ne veut aucune contrainte, l'individualisme français, c'est l'individualisme de Rousseau. Donc la demande de républicanisme, abstraction, ça me rappelle l'exemple de Clermont-Tonnerre pendant la Révolution française. La France est le premier pays qui a donné le droit de citoyen aux Juifs, mais il a dit, en tant que nation, les Juifs n'ont aucun droit, en tant qu'individu, tous les droits du citoyen. C'est-à-dire, il faut oublier qu'on est Juif ou être Juif à la maison, mais en tant que citoyen, on n'est pas différent des autres citoyens. Donc, il y a un besoin d'abstraction. Ce qui, en France, est démontré, de nouveau, ce n'est pas très bien compris par nous, Américains, et beaucoup d'autres Européens, d'ailleurs, aussi, cette notion qu'on ne peut pas porter le voile à l'école, la loi contre la burqa, etc., etc., démontre cet esprit de ce que j'appelle l'excès d'individualisme dans le sens de l'abstraction. Or, vous avez eu cet incident, Mohamed Merah, qui est un incident, de nouveau, c'est peut-être un fou, etc., je ne parle pas de l'individu, mais du symbolisme d'un élément comme ça. Alors, c'est intéressant, d'abord, il s'est déclaré être quelqu'un qui agit tout seul, qui n'avait aucun lien, alors qu'en fait, il a été entraîné en Afghanistan par la Al-Qaïda et d'autres. Deuxièmement, il a tué des musulmans dans l'armée française parce qu'il a considéré que c'était des traîtres. Et finalement, il est allé dans une école juive à Toulouse où il a tué des enfants et un rabbin. Alors, ce qui est très intéressant dans tout cela, c'est la réaction, alors je lis les journaux juste après, peur d'islamophobie en France à cause de parce qu'on va, identifier ça avec l'islam. Deuxièmement, alors la communauté juive de Toulouse et la communauté juive nationale avaient d'abord eu la sympathie de tout le monde et la solidarité de tout le monde, mais ensuite ils ont commencé à craindre que ça va mener à l'antisémitisme, ça va, parce que ça va montrer que ces juifs, du moins ces juifs religieux à Toulouse sont différents, ils ne sont pas comme les autres Français. Or ce qui est ironique dans tout cela, c'est que justement les musulmans et les juifs devraient se mettre ensemble politiquement pour essayer de s'attaquer à cette abstraction. C'est-à-dire, on peut avoir une démocratie, on peut avoir une citoyenneté saine sans aller aux extrêmes, du moins de l'extérieur, de ce que j'appelle les extrémismes de l'individualisme républicain à la française. Finalement, je finis par là, l'Allemagne. Alors, le cas pour l'Allemagne, c'est très important, c'est central pour le constitutionnalisme allemand, c'est la notion du droit de dignité. Ça se comprend et la Cour allemande a été, très souvent la Cour constitutionnelle allemande, était très éloquente dans sa défense de la dignité. Or, nous avons eu une Cour régionale de Cologne il n'y a pas très longtemps qui a interdit la circoncision. Il s'agissait de la circoncision d'un musulman de 4 ans, mais peu importe, la communauté juive, qui les juifs le font après 8 jours, s'est opposée violemment à cela. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est un excès d'individualisme. Parce que l'individualisme allemand qui se relie à cette notion de dignité, finalement, est un préjugé culturel. Alors, d'abord, sur la question de la circoncision, c'est assez intéressant. C'est une question en partie médicale. Par exemple, l'Association des pédiatres américains, il y a quelques mois, a déclaré que les avantages sont plus importants que les désavantages, quoique ça c'est un sujet à débat. Mais personne n'interférerait en Allemagne, dans aucun pays européen que je sache, ou occidental, si par exemple un parent allait chez un médecin et demandait « est-ce qu'il faut que les amygdales de mes enfants soient… qu'il y ait une opération pour qu'on enlève les amygdales ?» Alors si les docteurs ne sont pas d'accord, c'est aux parents de décider quoi faire. Sur la circoncision, du moins pour cette cour allemande, ce n'est pas la même chose d'abord. Mais il y a aussi un aspect religieux. Et c'est justement la question de l'équilibre entre l'individu et le groupe. Alors, ces religions qui sont millénaires, etc., etc., vivent dans leur communauté de cette façon-là. Il n'y a pas d'évidence qu'on ne peut pas être bon citoyen ou qu'on ne peut pas avoir une vie normale si on appartient à cette communauté. On a ce bonheur ou malheur, ça dépend du point de vue. En tout cas, voilà notre excès de l'individualisme. Finalement, une note sur l'argent aux États-Unis, et ça se relie au problème des écarts de richesse, c'est la décision en 2010 dans une affaire qui s'appelle Citizens United, où la Cour suprême a déclaré, au point de vue des contributions au sujet des élections, que l'argent équivalent à la liberté d'expression. Donc si un multimilliardaire veut mettre tout son argent derrière un candidat ou derrière une cause, on ne peut pas le limiter. Donc le discours politique est une distorsion complète. D'ailleurs, ça s'est vu dans l'élection de 2012, où un seul monsieur, qui avait des milliards de dollars à donner des centaines de millions, a soutenu la candidature de Newt Gingrich, qui autrement n'aurait pas pu, qui a poursuivi ça pendant 2 ou 3 mois, qui n'aurait pas pu le faire. Et enfin, les effets, on n'a pas encore tiré de conclusions puisque l'élection est assez récente présidentielle, mais c'est, d'après la plupart des gens, pernicieux. Mais cette équation entre argent et liberté d'expression est une autre manifestation où il y a un déséquilibre au sujet du traitement de l'argent. Alors, ces exemples-là, tous les exemples que je donnais, je crois, menace le bon fonctionnement du constitutionnalisme à l'ancienne venant des souches du XVIIIe siècle, tout en, à chaque coup, nous présentant la problématique, la résolution des problèmes, les nouvelles tendances comme étant simplement un développement, simplement à l'intérieur de la vision constitutionnelle et de la mise en place et du fonctionnement du constitutionnalisme. Donc, la menace vient de l'intérieur. Merci beaucoup.